George Sand. Jeanne. Notice. Jeanne est le premier roman que j'ai composé pour le mode de publication en feuilleton. Ce mode exige un art particulier que je n'ai pas essayé d'acquérir, ne m'y sentant pas propre. C'était en 1844, lorsque le vieux constitutionnel se rajeunit en passant au grand format. Alexandre Dumas et Eugène Sue possédaient dès lors, au plus haut point, l'art de finir un chapitre sur une péripétie intéressante, qui devait tenir sans cesse le lecteur en haleine, dans l'attente de la curiosité ou de l'inquiétude. Tel n'était pas le talent de Balzac, tel est encore moins le mien. Balzac, esprit plus analytique, moi, caractère plus lent et plus rêveur, nous ne pouvions lutter d'invention et d'imagination contre cette fécondité d'événements et ces complications d'intrigues. Nous en avons souvent parlé ensemble. Nous n'avons pas voulu l'essayer, non par dédain du genre et du talent d'autrui. Balzac était trop fort, moi trop amoureux de mes aises intellectuelles pour dénigrer les autres. Car le dénigrement, c'est l'envie, et on dit que cela rend fort malheureux. Nous n'avons pas voulu l'essayer, par la certitude que nous sentions en nous de n'y pas réussir et d'avoir à y sacrifier des résultats de travail qui ont aussi leur valeur, moins brillante, mais allant au même but. Ce but, le but du roman, c'est de peindre l'homme, et qu'on le prenne dans un milieu ou dans l'autre, aux prises avec ses idées ou avec ses passions, en lutte contre un monde intérieur qui l'agite, ou contre un monde extérieur qui le secoue, c'est toujours l'homme en proie à toutes les émotions et à toutes les chances de la vie. Jeanne est une première tentative qui m'a conduit à faire plus tard La Mare au Diable, Le Champi et La Petite Fadette. La Vierge d'Holbein m'avait toujours frappée comme un type mystérieux où je ne pouvais voir qu'une fille des champs rêveuse, sévère et simple. La candeur infinie de l'âme, par conséquent, un sentiment profond dans une méditation vague où les idées ne se formulent point. Cette femme primitive, cette vierge de l'âge d'or, où la trouver dans la société moderne? Du moment qu'elle sait lire et écrire, elle ne vaut pas moins sans doute, mais elle est autre et appartient à un autre genre de description. Je crus ne pouvoir la trouver qu'au champ. Pas même au champ, au désert, sur une lande inculte, sur une terre primitive qui porte les stigmates mystérieuses de notre plus antique civilisation. Ces coins sacrés où la charrue n'a jamais passé, où la nature est sauvage, grandiose ou morne, où la tradition est encore debout, où l'homme semble avoir conservé son type gaulois et ses croyances fantastiques, ne sont pas aussi rares en France qu'on devrait le croire après tant de révolutions, de travaux et de découvertes. La France est pleine, au contraire, de ces contrastes entre la civilisation moderne et la barbarie antique, sur des zones de terrain qui ne sont séparées parfois l'une de l'autre que par un ruisseau ou par un buisson. Quand on se trouve dans une de ces solitudes où semble régner le sauvage génie du passé, cette pensée banale vient à tout le monde. On se croirait ici à 2000 lieues des villes et de la société. On pourrait dire aussi bien qu'on s'y sent à 2000 ans de la vie actuelle. Cette vierge gauloise, ce type d'Holbein ou de Jeanne d'Arc ignorée, qui se confondait dans ma pensée, j'essayais d'en faire une création développée et complète. Mais je ne réussis point à mon gré. Il me fallut, pour satisfaire aux nécessités du feuilleton, me hâter un peu, Et d'ailleurs, je n'osais point alors faire ce que j'ai osé plus tard, peindre mon type dans son vrai milieu et l'encadrer exclusivement de figures rustiques en harmonie avec la mesure, assez limitée en littérature, de ses idées et de ses sentiments. En mélangeant à des types de notre civilisation, je trouvais que j'atténuais la vraie grandeur que je lui avais rêvée et que j'altérais sa simplicité nécessaire. Je fis un roman de contraste, comme ces contrastes de paysage et de mœurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais je me sentis dérangée de l'oasis austère où j'aurais voulu oublier et faire oublier à mon lecteur le monde moderne et la vie présente. Mon propre style, ma phrase, me gênait. Cette langue nouvelle ne peignait ni les lieux ni les figures que j'avais vues avec mes yeux et comprises avec ma rêverie. Il me semblait que je barbouillais d'huile et de bitume les peintures sèches, brillantes, naïves et plates des maîtres primitifs, que je cherchais à faire du relief sur une figure étrusque, que je traduisais Homère en rébus, enfin que je profanais le nu antique avec des draperies modernes. Les peintres et les sculpteurs de la Renaissance l'ont pourtant fait. Germain Pilon a habillé les grâces païennes avec une mousseline ou un taffetas qui n'est jamais sorti d'une autre fabrique que de celle de son génie. Mais il faut être Germain Pilon, ou ne pas s'en mêler. Puisse le lecteur m'être plus indulgent que je ne le suis à moi-même. Nohant, mai 1852, George Sand. Dédicace à Françoise Meillant.
Tu ne sais pas lire, ma paisible amie, mais ta fille et la mienne ont été à l'école. Quelques jours, à la veillée d'hiver, pendant que tu fileras ta quenouille, elles te raconteront cette histoire, qui deviendra beaucoup plus jolie en passant par leur bouche.
Prologue. Dans les montagnes de la Creuse, en tirant vers le Bourbonnais et le pays de Combrailles, au milieu du site le plus pauvre, le plus triste, le plus désert qui soit en France, le plus inconnu aux industriels et aux artistes, vous voudrez bien remarquer, si vous y passez jamais, une colline haute et nue, couronnée de quelques roches, qui ne frapperait guère votre attention sans l'avertissement que je vais vous donner. Gravissez cette colline. Votre cheval vous portera, sans grand effort, jusqu'à son sommet. Et là, vous examinerez ces roches disposées dans un certain ordre mystérieux et assises, par masses énormes, sur de moindres pierres où elles se tiennent depuis une trentaine de siècles dans un équilibre inaltérable. Une seule s'est laissée choir sous les coups des premières populations chrétiennes, ou sous l'effort du vent d'hiver qui gronde avec persistance autour de ces collines dépouillées de leurs antiques forêts. Les chênes prophétiques ont à jamais disparu de cette contrée, et les druides n'y trouveraient plus un rameau de gui sacré pour parer l'autel d'Hésus. Ces blocs, posés comme des champignons gigantesques sur leur étroite base, ce sont les menhirs, les dolmens, les cromlechs des anciens Gaulois, vestiges de temples cyclopéens, d'où le culte de la force semblait bannir par principe le culte du beau. Tables monstrueuses où les dieux barbares venaient se rassasier de chair humaine et s'enivrer du sang des victimes. Autels effroyables où l'on égorgeait les prisonniers et les esclaves pour apaiser de farouches divinités. Des cuvettes et des cannelures creusées dans les angles de ces blocs semblent révéler leur abominable usage et avoir servi à faire couler le sang. Il y a un groupe plus formidable que les autres qui enferme une étroite enceinte. C'était peut-être là le sanctuaire de l'oracle, la demeure mystérieuse du prêtre. Aujourd'hui, ce n'est, au premier coup d'œil, qu'un jeu de la nature, un de ces refuges que la rencontre de quelques roches offre aux voyageurs ou aux pâtres. De longues herbes ont recouvert la trace des antiques bûchers. Les jolies fleurs sauvages des terrains de bruyère enveloppent le socle des funestes autels. Et à peu de distance, une petite fontaine froide comme la glace et d'un goût saumâtre, comme la plupart de celles du pays marchois, se cache sous des buissons rongés par la dent des boucs. Ce lieu sinistre, sans grandeur, sans beauté, mais rempli d'un sentiment d'abandon et de désolation, on l'appelle les pierres jaumâtres. Vers les derniers jours d'août 1816, trois jeunes gens de bonne mine chassaient au chien couchant, au pied de la montagne aux pierres, comme on dit dans le pays. « Ami, dit le plus jeune, je meurs de soif, et je sais par ici une fontaine vers laquelle mon chien court déjà comme à bonne connaissance. Si vous voulez me suivre, Sir Arthur sera peut-être bien aise de voir de près ces pierres druidiques, bien qu'il en ait vu sans doute de plus curieuses en Écosse et en Irlande. Je verrai toujours, répondit Sir Arthur, avec un accent britannique bien marqué. Et il se mit à gravir la colline par son côté le plus roide, pour marcher en ligne droite aux pierres jaumâtres. Quant à moi, dit le troisième chasseur, qui avait l'air moins distingué que les deux autres, quoique sa physionomie eût plus d'expression et son œil plus de vivacité. Je n'espère pas trouver ici de gibier, c'est un endroit maudit, mais je vais à la recherche de quelques chèvres pour la soulager de son lait.
Vous ne devez pas, dit l'anglais, dont le parler était toujours obscur à force de laconisme.
Prenez garde, Marcia, cria le premier interlocuteur, le jeune Guillaume de Boussac, qui se dirigeait vers la fontaine. Vous savez bien que Sir Arthur est le grand redresseur de nos torts, et qu'il ne voit pas d'un bon œil vos attentats contre la propriété. Il ne veut pas qu'on saccage les murs de clôture, qu'on gâte les sarrasins, ni qu'on tue la poule du paysan.
Bah, reprit le jeune licencié en droit,
le paysan sait bien prendre sa revanche au centuple. Sir Arthur était déjà loin. Il avait une manière de marcher en rasant la terre qui n'avait l'air ni active ni dégagée, mais qui gagnait le double en vitesse sur celle de ses compagnons. C'était un chasseur modèle. Il n'avait jamais ni faim ni soif, et les jeunes gens qui le suivaient avec émulation maudissaient souvent son infatigable persévérance. Bien que Guillaume de Boussac et Léon Marcilla ne fissent que bondir et s'essouffler, l'anglais, pareil à la tortue de la fable qui gagne sur le lièvre le prix de la course, examinait depuis un quart d'heure la disposition et les qualités minéralogiques des pierres jaumâtres, quand ses deux amis vinrent le rejoindre.
« Diable de fontaine !» disait M. de Boussac en faisant la grimace.
« Elle a un goût de cuivre qui ne me donne pas grande idée du trésor. »
« Ces maudites chèvres, disait Marcilla, n'ont pas une goutte de lait. Au lieu de brouter, elles ne songent qu'à lécher les pierres. Est-ce qu'elles auraient le goût de l'or ?»«
Or ? Trésor ?» demanda Sir Arthur en les regardant d'un air étonné.
« C'est qu'il faut vous dire, repartit Guillaume de Boussac, qu'il y a une tradition, une légende sur cet endroit-ci. Vous n'ôteriez pas de la tête de nos paysans, à ce que prétend Marcilla, qu'un trésor est enfoui dans cette région.
« Cette croyance les rend fous, dit Marcilla. Les uns supposent ce trésor enterré sous ces pierres druidiques, d'autres le cherchent plus loin, dans la montagne de Toul-Sainte-Croix, que vous voyez à une heure de chemin d'ici. » L'anglais regarda le sol maigre et pierreux, les bruyères qui étouffaient le fourrage, les chèvres efflanquées qui erraient à quelque distance.
« Il y a un trésor dans les terres incultes, dit-il.
Mais il faut un autre trésor pour l'en retirer.
Oui, des capitaux, dit Marcilla.
Et des paysans, ajouta Guillaume. Cette terre est dépeuplée. Des hommes, et puis des hommes, reprit l'anglais.
Comprends pas, dit Guillaume en souriant à Marcilla.
Pas de maître et pas d'esclaves. Des hommes et des hommes, reprit Sir Arthur, étonné de n'avoir pas été compris, lui qui croyait parler clair.
Est-ce qu'il y a des esclaves en France? S'écria Marcilla en haussant les épaules.
Oui, et en Angleterre aussi,
répondit l'anglais sans se déconcerter.
La philosophie m'ennuie,
reprit à demi-voix Marcilla en s'adressant à son jeune compatriote.
Votre anglais me dégoûterait d'être libéral. Combien voulez-vous parier, Guillaume,
ajouta-t-il tout haut, que je monte sur la plus haute et la plus lisse des pierres jaumâtres?
Je parie que non, répondit monsieur de Boussac.
Voulez-vous parier ce que nous avons d'argent sur nous?
Volontiers, cela ne me ruinera pas, je n'ai qu'un louis.
Eh par Dieu, je n'ai qu'une pièce de 5 francs, moi, reprit Marcilla après avoir fouillé toutes ses poches.
C'est égal, je tiens, dit monsieur de Boussac.
Et vous, milord? Reprit Marcilla. Que pariez-vous?
Je parie une pièce de 5 sous de France, répondit Sir Arthur.
Fi donc, j'ai cru, dit Marcilla, que les Anglais étaient fous des paris. Ils ne méritent guère leur réputation. 5 sous pour monter là-dessus?
C'est plus que cela ne vaut.
Par exemple, il y a de quoi se casser bras et jambes.
Alors je ne parie rien. Ou je parie 1000 livres sterling contre vous que vous y monterez.
L'argent n'est rien, la gloire est tout, s'écria gaiement Marcilla.
Je tiens vos 5 sous et je monte.
C'est comme cela qu'on se tue, dit Arthur en lui ôtant froidement des mains son fusil armé dont il voulait céder. Marcilla fit des efforts inouïs, des miracles d'adresse, et après s'être écorché les mains en glissant plus d'une fois jusqu'à terre, après avoir cassé ses bretelles et mis au désespoir son chien qui ne pouvait le suivre, il parvint à se dresser d'un air de triomphe sur la plateforme du dolmen.
« Savez-vous, s'écria-t-il, que ces pierres étaient des idoles? Me voilà sur les épaules d'un dieu. »
« Écoutez, Léon, lui cria le jeune de Boussac, si vous trouvez là-haut la druidesse Véléda, faites-nous en part. »
« Bah, je n'aime pas plus votre druidesse que votre château brillant, répondit Marcilla, qui se piquait de libéralisme.
« Vive Lisette, vive le charmant Béranger. »
« Écrivain de mauvaise compagnie, reprit le jeune homme avec dédain.
N'est-ce pas, Sir Arthur? Est-ce que vous pouvez supporter ce chansonnier de taverne?
Béranger, grand poète, dit tranquillement l'anglais.
Un poète, lui? Dites donc Chateaubriand.
Et Chateaubriand, grand poète, reprit l'anglais sans s'animer davantage.
Allons, vous n'entendez rien à la littérature française, cher allié. Vous êtes un véritable anglais.
Je suis, quand je dis cela, un véritable français, répondit Sir Arthur. Et un jour, Chateaubriand, Béranger se donneront la main.
Ce jour-là, repartit le jeune noble, Marcilla trouvera la druidesse Véléda sur la grande pierre jaumâtre.
« Quoi, Lisette, est-ce vous ?»
chantait Marcilla en parcourant la plateforme du dolmen et en sautant d'un bloc à l'autre. Tout à coup, il s'arrêta et son chant fut interrompu par une exclamation de surprise.
« Qu'est-ce donc? Un lièvre? Un serpent ?» s'écria Guillaume.
« Véléda ?» demanda Sir Arthur en souriant un peu.
« Non, Lisette !» répondit Marcilla. Pas laide du tout, ma foi. Mais est-elle morte?
Et il disparut dans la coulisse que formait l'écartement des 2 plus grosses pierres druidiques. Guillaume de Boussac, voyant qu'il ne répondait plus à ses questions, poussé par la curiosité d'une aventure, se mit en devoir d'escalader le rocher. Mais Sir Arthur, moins pressé et nullement ému, lui fit remarquer qu'en tournant l'enceinte de roche et en rejoignant Marcilla par l'intérieur, il aurait beaucoup plus vite atteint son but. Ce fut l'affaire de quelques instants, et tous trois se trouvèrent réunis autour de la druidesse endormie.
« C'est un petit enfant, » dit l'anglais.
« Cela ? Ça a 14 ou 15 ans, » répondit Marcilla.
« Peut-être plus. »
« Je n'aurais pas cru, » dit Guillaume.
« La race du pays est comme cela, » reprit Marcilla. « Les filles jusqu'à 16 ans et les garçons jusqu'à 20 sont tout petits et conservent des traits enfantins. Ils se développent tout d'un coup et deviennent grands et forts lorsqu'on les croyait noués pour toujours. C'est la même chose que pour les poulains et les taureaux.
« Oh, ce n'est pas la même chose !» dit Sir Arthur, scandalisé d'entendre parler si légèrement de l'espèce humaine.
« Comme elle dort !» dit Guillaume de Boussac. « Un coup de fusil ne la réveillerait pas. »«
J'ai envie d'essayer !» dit Marcilla en cherchant à prendre l'arme de Sir Arthur, qui la lui refusa avec fermeté, trouvant la plaisanterie cruelle et dangereuse.
« C'est le sommeil de l'ange ou de la bête, » reprit Guillaume.
« Elle est jolie, n'est-ce pas, Léon ? Je ne peux voir que son profil, qui n'est pas laid. »«
Je voudrais voir son figure, » dit l'anglais, qui, par quelque faute de langue, donnait parfois, sans le savoir, un tour assez plaisant à ses discours ordinairement graves.
« Oh, son figure est beau !» répondit Marcilla avec l'indifférence que lui aurait inspirée une créature ruminante. « Je l'ai vu, c'est le beau type bourbonnais qui se mêle sur la frontière au type marchais, moins sévère, mais plus piquant à mon gré. Si elle n'avait pas renfoncé son nez sous son bras, vous verriez une vraie beauté bourbonnaise, et cela plairait à Milord, j'en suis sûre. » car il a des yeux tout comme un autre, malgré sa philosophie. »
Guillaume de Boussac voulut pousser la dormeuse du bout de son fouet pour la réveiller. L'anglais s'y opposa, en disant d'un ton et avec un accent qui provoquèrent un éclat de rire.
« Laissez dormir l'innocence !»«
On peut bien la faire remuer sans la réveiller !» dit Marcilla en avançant la main pour retourner la tête de la pastourelle.
« Mettez votre gant !» dit Guillaume en le retenant. « Les enfants de ce pays sont si mal propres !»«
C'est vrai !» reprit Marcilla, en ramassant un brin d'herbe dont il chatouilla le front de la jeune fille. Elle fit le mouvement de chasser une mouche importune, et se retourna, avec ce gros soupir sans effort et sans tristesse, qui soulève la poitrine des enfants endormis, et qui a une harmonie particulière. Une pureté de souffle qui inspire je ne sais quel attendrissement. Puis, sans ouvrir les yeux, elle prit à son insu une pose incroyablement gracieuse. Son bras était rejeté au-dessus de sa tête, et sa main brune, mais effilée et petite, rejeta en arrière sa coiffe de toile grise, et resta entr'ouverte sur ses cheveux d'un blond cendré magnifique. C'était bien le plus frais visage humain qui eût jamais bravé, sans voile et sans ombrelle, les ardeurs du soleil de midi. Il est certains cantons du Berry et des provinces limitrophes où, malgré l'absence d'arbres et en dépit d'une vie exposée à toutes les blessures du hâl, la carnation des paysans est aussi pure et aussi délicate que celle des Vénitiens et des montagnards des Alpes graïennes. Dans les endroits où ce caractère n'est pas général, il se produit et se perpétue dans certaines familles. Et c'est une opinion assez répandue que ces familles sont d'origine anglaise, les Anglais ayant occupé, comme on sait, assez longtemps nos provinces du centre pour y mélanger leur sang avec celui des indigènes. Mais nous croirions plutôt que le pur sang de la race gauloise primitive s'est conservé jusqu'à nos jours sans mélange, dans quelques tribus rustiques de nos provinces centrales. La dormeuse était donc blanche comme l'astère des prés et rosée comme la fleur de l'églantier. mais sa beauté eût pu se passer de cette recherche particulière à la race des oisifs. Ses traits étaient admirables, son front humide, un peu bas comme celui des statues antiques. Les lignes les plus pures et un calme angélique dans la physionomie lui donnaient une ressemblance frappante avec ces beaux types que l'art grec a immortalisés. Sa taille n'était pas développée et annonçait pourtant la souplesse et la force. Elle était vêtue de haillons qui, dans leur désordre pittoresque, ne la déparaient nullement. Ses pieds nus reposaient dans l'herbe, et sa bouche entr'ouverte laissait voir des dents superbes. La véritable beauté est toujours chaste et inspire un respect involontaire. L'Anglais n'était pas d'humeur à s'en départir, et ses deux étourdis compagnons en subirent l'ascendant irrésistible. « Ma foi, ce n'est pas Lisette, c'est Véléda !» dit Marcilla en baissant la voix par un sentiment instinctif. « Et pourquoi Lisette ne serait-il pas beau comme Véléda ?» demanda Sir Arthur. « Va pour Véléda, va pour Lisette !» répondit Marcilla. « Si j'étais peintre, je voudrais croquer cette divine créature. « Et si j'étais seule ?» ajouta-t-il, revenant à son naturel. « Je voudrais savoir si cette chevrière a tant soit peu d'esprit. » « Monsieur Marcilla, » dit Arthur d'un air solennel, « allons-nous-en. » « Oui, oui, allons-nous-en, » dit Marcilla après avoir ri de la vertueuse sollicitude de l'Anglais. « On se repent toujours d'avoir regardé les belles marchoises. La plus sotte et la plus novice en sait assez long pour compromettre le plus prudent et le plus discret d'entre nous. Ô diable, toutes les Véléda et toutes les Lisettes de nos champs !» « Je ne comprends pas, » reprit Sir Arthur en s'échauffant un peu au feu de son indignation intérieure, « qu'il vous vienne de pareilles pensées à la vue d'un enfant. Vous n'êtes pas dignes, messieurs, de contempler la beauté. » « Oui, oui, Milord est seul digne de contempler la beauté, » dit Marcilla en contrefaisant l'accent comique de Sir Arthur. Sir Arthur ne s'en aperçut pas. Le mot ne sonnait pas autrement à son oreille qu'il ne l'avait prononcé, et il souriait d'un air de pitié paternelle quand les jeunes gens le traitaient de Milord avec une affectation ironique. « Attendez, messieurs, » dit Guillaume. « Marcilla a gagné son pari, et je lui dois un louis, que je le défie de prendre où je vais le mettre. » En même temps, il déposa doucement dans la main toujours ouverte de la dormeuse le napoléon qu'il avait parié. « Vous avez raison, » dit Marcilla, « et je suis bien fâchée de n'avoir que 5 francs à joindre à votre aumône. »« Halte là, Milord !» ajouta-t-il après avoir déposé son écu dans la main de la petite paysanne et en voyant que Sir Arthur se fouillait à son tour. « Vous n'avez parié que 5 sous, et vous ne devez pas mettre davantage à l'offrande. » « D'autant plus, » dit Sir Arthur, après avoir retourné toutes ses poches d'un air consterné, « que je n'ai rien autre chose sur moi. » « Je crois bien, vous avez tout donné en chemin. » reprit Guillaume, qui connaissait l'extrême libéralité de l'Anglais. « Son sommeil obstiné m'amuse, » ajouta-t-il en jetant un dernier regard sur la chevrière. « Je voudrais voir son étonnement quand elle trouvera ces 3 pièces dans sa main en se réveillant. »« Elle croira que le diable s'en est mêlé, » répondit Marcilla. « Ou tout au moins les fées qui hantent, comme chacun sait, les pierres jaumâtres au coup de midi et au coup de minuit. » « Puisque nous faisons le rôle des fées, » dit Guillaume, « et que nous voici 3, nombre consacré dans tous les contes merveilleux, je suis d'avis que nous fassions chacun un souhait à cet enfant. »« Ça va, » dit Marcilla, et étendant la main sur la tête de l'enfant. « Ma belle, » lui dit-il, « je te souhaite un gaillard vigoureux pour amant. » « Ma charmante, je te souhaite un protecteur riche et généreux, » dit Monsieur de Boussac en souriant.
Ma fille, je te souhaite un honnête mari qui t'aime et t'assiste dans tes peines,
dit à son tour l'anglais, avec un sérieux et un accent de conviction qui arrêtèrent un instant la gaieté de ses compagnons. Tous trois s'éloignèrent des pierres jaumâtres, croyant avoir porté bonheur à l'enfant, chacun à sa manière, et ne se doutant guère que leurs aumônes allaient devenir, dans sa petite main, l'instrument de leur destinée.